7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment agir face aux violences conjugales et aux meurtres de femmes? Tout au long de la journée, la rédaction de RFI se mobilise sur ce sujet. Un Grenelle des violences conjugales démarre aujourd'hui. Une réunion très politique avec Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en première ligne et qui remet au centre la question de l'action de l'État pour protéger les femmes. En France, entre 120 et 150 femmes sont assassinées chaque année par un conjoint ou un ex-conjoint. Des chiffres très stables et un phénomène planétaire, même si d'autres pays parviennent à de meilleurs résultats que la France. Alors comment impliquer la société, la police pour les dépôts de plaintes? Comment mettre à l'abri et protéger les femmes menacées? On abordera la question de l'hébergement, des bracelets électroniques, des téléphones d'urgence. Faut-il renforcer aussi les peines de justice pour les hommes violents qui agissent parfois, selon certains, avec un sentiment d'impunité? Des questions qui font débat, en tout cas depuis des années, dans un pays comme la France où la justice est largement sous-dotée. On parle aujourd'hui de féminicide, mais il y a encore quelques années, on parlait de crime passionnel avec une relative bienveillance. Et dans certains pays, la tradition veut que l'épouse supporte coûte que coûte son mari. Nous allons en discuter donc avec nos invités que je vous présente. Luc Frémiot, bonjour.
Bonjour, Emmanuel Bastide.
Vous êtes magistrat honoraire, ex-procureur de Douai, et vous avez à l'époque pris plusieurs mesures dans la lutte contre les violences conjugales. Vous avez entre autres publié La vengeance d'une femme et Je vous laisse juge. Sophie Soubiran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocate au barreau de Paris en droit pénal et droit de la famille, membre de la force juridique de la Fondation des femmes. Céline Pic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole de Oser le féminisme. On sera en ligne également au Sénégal avec Awa Cissé de l'association des juristes sénégalaises et puis avec l'humoriste Raphaël Lévy Lével, qui a écrit sur les violences conjugales, une situation qu'elle a vécue personnellement. Et quant à vous, les voisines, les voisins, vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi notre numéro WhatsApp pour nous laisser des messages audio et écrits.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Voilà, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. Mais tout de suite, écoutez le témoignage d'une voisine, Nadit, à Libreville, au Gabon.
Bonjour à tous les auditeurs de 7 milliards de voisins. Mon ancien copain passait le temps à m'insulter de pute, de chienne. Ensuite, c'était des coups. Et il m'en a même donné plusieurs sur le ventre lorsque j'étais enceinte de 6 mois. De ce que j'ai vécu, la femme battue trouve normal de l'être. Parce que moi, je me disais qu'il avait raison, qu'il me rééduquait. J'étais même arrivé à un moment donné de me dire que oui, étant donné que j'avais collectionné beaucoup d'amants, mon corps était sale. Vous voyez un peu, donc je me sentais responsable de ce qui m'arrivait. Donc, j'étais enfermée dans une prison psychologique. Et lorsqu'il venait me demander pardon à genoux après les coups, il demande pardon avec un cadeau. Des fois même on fait l'amour, on se réconcilie. On est dans un vice en fait. Lorsque notre fille a eu 2 mois, une dispute a éclaté au cours de laquelle il a carrément jeté le bébé sur le lit pour venir me frapper. Et c'est à ce moment qu'il y a eu le déclic. J'ai réalisé que je devais me défendre seule. Donc j'ai plié les poings comme une boxeuse. Enfin, j'ai essayé. Et je me suis levée sur le lit et je l'ai invité en regardant le fer à repasser que j'étais prête à lui lancer. Vraiment, j'étais remplie de force ce jour-là et j'ai également éclaté en injures. Je l'ai copieusement insulté, je l'ai traité de lâche en lui disant d'aller se mesurer à un homme comme lui au lieu de se déchaîner sur un être faible. Donc ça s'était calmé, on va dire, pendant je pense 7-8 mois. Jusqu'au jour où, étant au week-end chez sa mère, au cours d'une dispute qui a éclaté, il m'a étranglée. Et là, j'ai vu la mort venir. Et nulle n'était l'intervention de sa mère. Je mourais, quoi. Donc ce jour-là, j'ai pris une décision ferme, celle de le quitter. J'avais encore des sentiments pour lui, mais lorsque j'ai vu la mort, j'ai dit non. Là, je peux plus. Ici au Gabon, lorsqu'une femme va à la police ou à la gendarmerie, ces derniers, les gendarmes et les policiers lui disent clairement que mais vous les femmes, vous aimez ça, s'il te frappe, c'est que tu l'as provoqué. Et puis de toutes les façons, même si on le convoque et qu'on veut un peu lui faire peur, on va l'enfermer 2-3 jours. C'est encore toi la femme qui viendra chialer en disant « ouais, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, il faut le libérer ». Lorsqu'il y a des preuves de sévices corporels, donc de maltraitance corporelle, de violence conjugale, et que la femme a le courage d'aller directement au tribunal, là, ce sont souvent les propres parents de la femme qui le lui interdisent. Ils la sensibilisent, disant « écoute, quitte-le tranquillement, mais ne va pas porter plainte, c'est le père de tes enfants », toujours la même chanson. Donc, c'est pas un problème qui va être réglé maintenant.
Voilà le témoignage de Nadi qui a posté sur WhatsApp. Elle habite à Libreville au Gabon. Alors, autre continent, nous revenons maintenant en France. Qu'est-ce que ce type de témoignage, on pourrait l'entendre presque partout dans le monde, peut-être avec des différences d'ailleurs. Je ne sais pas, comment vous réagissez, Sophie Soubiran?
Écoutez, c'est un témoignage qui est d'abord bouleversant, qui continue à me mettre très en colère par ce qu'il décrit, parce qu'effectivement, on retrouve énormément de points de comparaison avec des choses que je peux entendre, moi, dans mon cabinet, et qu'on peut entendre d'une manière générale lorsqu'on travaille avec des femmes victimes de violences. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette auditrice parle de se défendre seule. Et elle parle aussi du fait que lorsqu'elle va voir ou lorsqu'elle est allée voir, je ne sais pas si c'est une hypothèse ou si c'est ce qu'elle a fait elle, les services de police, on lui a dit « mais tu vas revenir ensuite en nous disant qu'il faut libérer ton mari parce que c'est le père de tes enfants ». Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très important et qu'il faut changer de paradigme là-dessus, et c'est valable en France, on peut entendre ce genre de choses en France, c'est que il ne s'agit pas d'une question entre deux personnes en réalité.
Sous-entendu, la femme serait inconstante, c'est ça ?
Il y a d'abord cette question-là, mais ça c'est plus la question du cycle des violences et du fait qu'il y a une récurrence. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, d'un point de vue juridique, si vous voulez, c'est que le droit pénal et la protection d'une personne victime de violences, c'est pas une personne contre l'autre. C'est pas comme ça. C'est la société qui est là pour protéger cette femme. À partir du moment où une femme passe la porte d'un commissariat, elle doit être accueillie, elle doit être protégée. Elle remet sa protection entre les mains de l'État. En réalité,
Luc Frémiot.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue. Moi, ce qui me frappe, c'est que, voyez-vous, la honte et la culpabilité des victimes n'a pas de frontières. Parce que ce qu'elle dit, cette dame, on le retrouve de manière récurrente. Et cette question que se posent les femmes, si je suis frappée, il y a peut-être une raison, j'ai peut-être fait quelque chose, j'ai peut-être provoqué mon comportement. Et cette question-là est une véritable rouille du cœur et de l'âme, parce que ça les gangrène absolument. Et c'est ce qui explique aussi le fait que, dans bien des cas, eh bien, elle ne quitte pas le domicile.
Peut-être qu'aujourd'hui, cette auditrice évoquait la pression de la famille, c'est le père de tes enfants, tu ne peux pas quitter ton mari. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la question qui est d'actualité en France.
Il y a aussi une problématique extrêmement prégnante par rapport aux enfants, parce qu'après, il y a aussi la garde et les conditions de la garde. Et aujourd'hui, quand une femme quitte un conjoint violent, on lui impose, par exemple, une garde partagée après ces violences. Et on a tendance à rappeler dans nos associations féministes qu'un mari violent n'est jamais un bon père. Et vraiment, on a ces violences, qu'elles soient psychologiques, avec des menaces, avec tout un tas de mesures de rétorsion après la séparation. Et donc, je pense qu'on s'est longtemps fourvoyé hein, dans les campagnes qu'on faisait aussi contre les violences conjugales. On disait aux femmes deux messages. C'est à la première gifle, quittez votre conjoint. Ce qui était complètement absurde, c'est traduire une totale méconnaissance des mécanismes et de la difficulté qui a été très très bien décrite, je trouve, par ce témoignage. Et
Pourquoi c'est absurde, à la première gifle, quitter votre conjoint?
Parce qu'en fait, on sait que c'est extrêmement difficile et qu'au moment de la première gifle, il y a eu exactement ce qu'elle vient de décrire, ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur, et qu'il y a eu un contexte vulnérabilisant pour cette femme, qu'on a d'abord, premièrement, souvent, elles sont isolées, c'est-à-dire que le conjoint violent va essayer de couper les liens avec sa famille, avec ses amis. Donc, premièrement, l'isolement. Ensuite, violence psychologique avec, comme elle le dit très très bien, toutes les étapes de la stratégie de l'agresseur sont parfaitement décrites. Jouer le chaud et le froid. D'abord, je t'aime. Ensuite, je te frappe ou je t'humilie. Je te dis que tu es des insultes sexistes. Rabaisser l'estime de soi-même. Et donc, la violence par les coups intervient à un moment où c'est presque où le phénomène de l'emprise et de la terreur qui est exercée sur cette femme, elle est déjà installée.
Et avec parfois des moments où ça va mieux et où on se prend à espérer que
tout à fait.
Et c'est... on pourrait rester dans une situation d'amélioration.
Et par exemple, une femme qui retire sa plainte, c'est souvent un signe pour les policiers de bah, tout va bien, en fait, finalement, ils se sont réconciliés, alors qu'en fait, c'est plutôt un signe que la personne n'est pas en capacité de s'opposer à son conjoint violent, et c'est même un signe qui devrait nous alerter sur le danger dans lequel elle se trouve quand elle retire sa plainte, par exemple.
Luc Frémiot, vous êtes d'accord avec ça ? La réconciliation n'existe pas dans la réalité, dans un couple où la femme est victime de violences conjugales ?
Ce sont des faux-semblants. C'est ce qu'on appelle la lune de miel. Les psychologues appellent ça la lune de miel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'agresseur, pendant un temps indéterminé, va essayer effectivement de reconquérir, entre guillemets, la confiance de sa compagne. Mais ce que je voulais dire, c'est que la famille joue encore un rôle parfois très négatif. Moi, j'ai eu de nombreux exemples, notamment dans les classes les plus favorisées de la société, de femmes qui étaient en responsabilité, d'emplois importants, avec un bagage culturel déterminant, qui avaient évidemment cessé leurs activités sur la demande du mari, qui se faisaient l'objet ensuite de coups. Et bien souvent, eh bien, vous aviez la famille qui disait « Oh, ben, tu sais, ben, écoute, t'as comme un bon mari. Imagine aussi ce que ça va donner dans ton milieu social quand on t'envoie savoir ça. » Et ça, ce sont des choses qui sont dérives, parce que sur le plan psychologique, ça détruit absolument les victimes.
Et qui ne sont pas beaucoup dites aujourd'hui en France. Alors, le Grenelle des violences conjugales démarre aujourd'hui, s'achèvera le 25 novembre. Le Premier ministre doit annoncer cet après-midi des mesures d'urgence pour la protection des victimes. Vous, les uns et les autres, là, qu'est-ce que vous en attendez en priorité, Sophie Soubiran, de la Fondation des Femmes ?
Écoutez, à la Fondation des Femmes, nous sommes heureuses que ce Grenelle puisse avoir lieu, parce que nous avons, et les, avec nous, surtout les associations, des propositions à faire. Mais avant tout, la question majeure, c'est celle du budget. Et c'est tout l'intérêt d'avoir un Grenelle avec plusieurs ministres et notamment le Premier ministre autour de la table, c'est que on doit en principe pouvoir nous faire des annonces, d'ailleurs dès cet après-midi, budgétaires.
Et or une question d'argent sur les trois volets, que ce soit la prévention, que ce soit l'accompagnement des femmes, aussi bien les dépôts de plaintes, l'hébergement, etc., et que la sanction judiciaire, tout est une question de moyens financiers selon vous ?
Alors je ne dirais pas les choses comme ça, je dirais que c'est une condition sine qua non, c'est-à-dire que nous pouvons avoir des plans, et d'ailleurs il y en a eu ces dernières années, qui sont parfaits sur le papier, qui sont bien conçus, qui sont pensés avec les acteurs de terrain, si nous n'avons pas les moyens, que ce soit dans le domaine de la justice que je connais mieux, mais dans l'ensemble des domaines, de les mettre en place et de les mettre en œuvre, ces plans ne pourront pas, dans les faits, être appliqués uniformément sur tout le territoire.
Céline Pic, vous êtes d'accord, oser le féminisme,
tout à
uniquement
fait,
une question de moyens,
essentiellement. C'est pas uniquement qu'une question de moyens, mais les recommandations et ce qu'il faut faire, on les connaît. Hein. On en est au 5e plan triennal de lutte contre les violences. Quand on parle par exemple d'une formation systématique des magistrats et des policiers, oui, ça coûte de l'argent. Et aujourd'hui, on multiplie les effets d'annonce. Ça fait par exemple 2 ans qu'on nous parle d'une grande cause nationale du quinquennat. Il y a déjà eu des grandes causes avant. Hein. Il y en a eu pour la lutte contre le cancer, pour la sécurité routière. Ça chiffrait en milliards d'investissements pour faire des ronds-points, etc., pour sécuriser les routes. Aujourd'hui, sur cette grande cause du quinquennat...
La sécurité routière, c'est plus de morts que les femmes, hein, si on veut être totalement cynique. Hein.
D'accord, il y a 225 000 femmes qui sont frappées chaque année par leur conjoint, et 124 000 mineurs violés et 84 000 femmes violées. Donc on parle de centaines et de centaines de milliers de femmes victimes de violences extrêmement graves et extrêmement traumatisantes. Donc c'est une grande cause nationale qui a été affichée comme ça, comme telle par le gouvernement Macron il y a maintenant 2 ans, et il n'y a toujours pas de budget spécifique pour cette grande cause. C'est-à-dire que, par exemple, en termes d'annonces, en pratique, aujourd'hui, tout ce qu'on a eu pour, en guise de Grenelle, enfin, pour l'instant, on va voir ce qui va se passer cet après-midi, mais la semaine dernière, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, se satisfaisait d'avoir un nouveau fonds, le fonds Catherine, de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Mais de qui se moque-t-on ?
Quand il en faut 500 millions.
Quand il en faut 500 millions. Donc vraiment, il y a un problème de dimension qu'on veut donner à cet engagement de lutte contre les violences qui n'est pas encore rendu.
Luc Frémiot, alors vous avez été un procureur particulièrement investi, à Douai, sur ces questions de violence conjugale. Est-ce que vous dites que vous aussi, vous attendez avant tout des moyens ? En tant que procureur, vous avez forcément vécu le manque de moyens criants de la justice française, et pas que pour le problème des violences conjugales. Quand on regarde les meurtres de femmes là, qui sont donc toujours liés à une relation intime avec un homme, qu'est-ce que vous observez ces dernières années? Qu'est-ce qui a dysfonctionné en amont? Est-ce que c'est toujours un problème de moyens financiers?
Non, moi je ne pense pas que c'est un problème de moyens financiers. Je pense effectivement que les associations, elles, ont un problème financier parce que effectivement elles emploient des salariés, elles ont un travail de terrain qui est considérable et qui joue un rôle déterminant dans l'accompagnement des femmes, et effectivement elles ont besoin d'argent. En ce qui concerne le reste de ce Grenelle, je m'aperçois qu'on ne parle pas des choses qui sont qui fâchent et des choses qui sont déterminantes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement toute une série de dysfonctionnements. Et c'est la raison pour laquelle, avec Eva Darlan, on a lancé une pétition réclamant une inspection des services judiciaires, une inspection de l'administration au niveau du ministère de l'Intérieur, pour que l'on nous réponde à des questions qui sont précises. Pourquoi sans un féminicide depuis le début de l'année? On veut savoir si des plaintes ont été déposées, et non des mains courantes qui sont d'ailleurs prohibées. On veut savoir si ces plaintes ont été instruites, ce qu'ont fait les procureurs, est-ce qu'ils ont délocalisé l'auteur des violences du domicile conjugal pour le classer à l'extérieur, de manière à ce que les femmes restent chez elles? Est-ce qu'on les a pris en compte sur un plan psychiatrique et psychologique, parce qu'il faut travailler sur ce sujet? Est-ce qu'on s'occupait de ces femmes? Est-ce qu'on les a suivies? Est-ce qu'on les a aidées également à retrouver une dignité?
Il y a une enquête qui est commandée à l'inspection générale de la justice pour chercher les failles dans les dossiers de domicile conjugal.
Alors, c'est pas si clair que ça, hein, l'enquête. D'abord, on n'a pas vu d'aller de mission, premier point, et on n'aura pas les résultats. Nous, ce qu'on demande, c'est véritablement un état des lieux des dysfonctionnements, avec des sanctions à la clé.
Vous soupçonnez le gouvernement de ne pas vouloir voir la réalité en face? Quel serait l'intérêt de
Moi, ce que je soupçonne, c'est de mettre la poussière sous le tapis, comme d'habitude. Parce que personne n'a envie de dire nos services au ministère intérieur fonctionnent mal, les magistrats ne font pas toujours ce qu'ils doivent faire, et c'est vrai pour les procureurs, et c'est vrai dans certains cas pour certains juges aux affaires familiales, dans le contexte que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les droits d'hébergement, les droits de garde des maris violents. Tout ça, ça ne leur plaît pas d'en parler. Et c'est de ça dont il faut parler. Et tant qu'on n'aura pas réfléchi sur cet état des choses, tant qu'on n'aura pas réfléchi sur les moyens également d'éviter la violence, aujourd'hui, on passe notre temps à traiter les conséquences. C'est comme si on était dans un concept de déterminisme. On se dit, de toute façon, la violence, elle est là. Alors, on va créer des centres d'accueil pour les femmes, on va multiplier les places, etc. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut raisonner.
Si on reprend l'accueil dans les commissariats, l'écoute et la plainte à la police, vous êtes contre les mains courantes, Luc Frémiot, vous dites que ça ne sert à rien.
Mais attendez, mais non seulement je suis contre, mais elles sont prohibées. Vous savez, c'est très amusant cette histoire. Déjà Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait fait une instruction prohibant les mains courantes dans cette matière. Ensuite, il y a eu la loi sur la parité, à laquelle j'ai d'ailleurs participé, et j'ai demandé que les mains courantes soient supprimées, ce que j'avais fait d'ailleurs en 2003. Alors aujourd'hui...
Pourquoi dans ce cas, l'accueil dans les commissariats, je parle sous votre contrôle, mais souvent on incite les femmes à déposer une main courante plutôt qu'à un dépôt de plainte?
Pour se débarrasser et renvoyer la femme chez elle. Et
c'est plus rapide en termes de procédure.
En fait, ça permet de classer l'affaire, tout simplement. Il ne se passe strictement rien après une main courante. C'est illégal de faire un refus de plainte. Et ce qu'on réclame, effectivement, et je vais abonder dans le sens de
Est-ce que les femmes
Luc
savent
Frignot,
ça, que c'est illégal qu'un policier ne peut pas refuser un dépôt de plainte si elle demande un dépôt de plainte au lieu d'une main courante? Est-ce que les femmes le savent, ça?
Je ne suis pas sûre que les femmes le savent.
Il faut absolument le leur dire.
Et le leur dire et le répéter. Mais c'est extrêmement compliqué quand on est seul, quand on est dans un contexte de violence avec une estime de soi-même et qu'on arrive seul dans un commissariat, se voir refuser un dépôt de plainte, même si on le sait, c'est compliqué. Même si on le sait,
il faut un certificat médical ou pas, par exemple?
Non.
Parce que c'est cela étant, aussi.
Oui. Bien sûr, mais cela étant, moi je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit de part et d'autre, mais il se pose une vraie question, c'est que cet article du Code de procédure pénale qui oblige l'officier de police judiciaire à prendre la plainte sans avoir un préjugement, il n'est pas assorti de sanctions. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire des pétitions de principe avec des obligations, si jamais il n'y a pas de sanctions, et je vais même aller un peu plus loin, c'est que je pense qu'effectivement il y a la question du traitement des dossiers, il y a la question des chiffres, et il est beaucoup plus intéressant pour un commissariat d'avoir de bons chiffres, enfin je le dis de manière un petit peu vulgarisée.
Donc c'est un problème de moyens, de fonctionnement, où il y a aussi un problème avec la parole des femmes dans la société, et donc dans les commissariats de police.
Il y a absolument cette question-là aussi, je pense d'ailleurs la cause elle est double, c'est l'absence de sanctions, et puis c'est aussi cette culture judiciaire, et moi j'allais dire qu'il y a quelque part une présomption de mensonge. que les victimes doivent lever. La présomption d'innocence dont bénéficie l'auteur, elle est normale dans un état de droit. Il n'y a rien à en dire. Il y aura une enquête à charge et à décharge. Mais lorsque vous allez porter plainte pour n'importe quelle autre sorte de fait, vous ne vous retrouvez pas à devoir lever cette présomption que peut-être vous êtes en train de mentir parce que vous êtes une femme, parce que vous avez des enfants et parce qu'il y a une procédure de divorce. Et ça, c'est vraiment un paradigme judiciaire qui faut changer.
Est-ce que cette femme ne veut pas porter plainte pour manipuler l'issue d'un divorce éventuellement, des choses comme ça, des soupçons finalement?
Oui. Moi, ce que je voudrais rajouter à ce que vous venez de dire, c'est que les sanctions, elles peuvent exister. C'est-à-dire que le procureur de la République, et là c'est encore un rôle qu'il ne tient pas forcément, note les OPJ, les officiers de police judiciaire. Et c'est à lui de faire le ménage. C'est à lui de vérifier ces points-là. S'il passait là un petit peu de temps à regarder, notamment le registre informatisé des mains courantes, ben, il verrait toute une série de choses qui auraient dû mériter des plaintes. Et ben là, on peut prendre des sanctions disciplinaires.
Donc ça, ce n'est pas un manque de moyens.
Non.
Les juges aux affaires politiques pénales. Les juges aux affaires familiales qui délivrent très peu d'ordonnances de protection, 1300 par an, c'est ça, contre 20 000 en Espagne. Pourquoi ?
Alors, je crois qu'il y a d'abord une... Alors, c'est un dispositif qui, en France, est relativement récent, mais enfin, maintenant, on a quand même un certain recul. Et on sait, vous avez raison de le rappeler, qu'en Espagne, ça marche très bien.
Alors, ça consiste en quoi, exactement ?
Une ordonnance de protection, c'est une ordonnance qui permet au juge aux affaires familiales saisi en urgence de statuer à la fois sur les éléments sur lesquels il statue en temps normal, à savoir la garde des enfants, la pension alimentaire et surtout, chose importante, qui va garder le domicile. Et également, dans les cas de violence, j'insiste, vraisemblable, ce qui signifie qu'il a pas, c'est vraiment une mesure d'urgence et de protection. C'est pas, il s'agit pas de savoir s'il y a déjà une plainte ou même s'il y a déjà une plainte ou a fortiori s'il y a déjà une condamnation définitive. Le juge aux affaires familiales peut prendre vis-à-vis de l'auteur soupçonné des faits des mesures comme une interdiction de contact avec la victime des violences. Et donc ça permet, si vous voulez, dans une seule instance, d'avoir une solution qui dure 6 mois. C'est une mesure provisoire qui permet en principe de régler, au moins pour le temps rapide.
Donc encore très peu utilisé.
C'est très peu utilisé.
Alors que les magistrats sont principalement des femmes, on a l'impression que ça ne joue pas forcément en faveur de la protection des femmes, Luc Frémiot.
Ben oui, mais c'est ça qui est inquiétant. Ce que je voulais dire, c'est que dans certaines juridictions, ça fonctionne très bien. Et c'est ça qui est étonnant. Il y a une disparité en France. Vous avez des juridictions où l'ordonnance de protection fonctionne très très bien, et d'autres où on ne veut pas en faire. Alors, la vérité, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est tout à fait ça. Il y a une suspicion perpétuelle sur les déclarations des femmes, de la part des femmes comme de la part des hommes.
Quand vous étiez procureur à Douai, vous, votre credo à Douai, c'était « c'est l'homme qui doit quitter le domicile conjugal ». Tout le monde n'est pas sur cette même longueur d'onde.
Oui, mais je sais bien. J'étais, écoutez, ulcéré quand j'ai entendu, quand j'ai lu plutôt, dans Sud-Ouest, une interview de Mme Schiappa, qui disait « ça me pose un problème philosophique de considérer qu'il faut créer des centres d'hébergement pour les hommes ». Mais moi, ce que j'ai envie de demander...
Vous avez entendu de dépenser de l'argent public pour
les
centres...
Est-ce que ça lui pose un problème philosophique quand des femmes en pleine nuit avec les enfants sous le bras sont à la recherche d'un hébergement d'urgence?
Vous, c'est quelles ça, sont vos positions pour les associations
Je pense qu'il faut avant tout écouter la parole des femmes. Je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui seraient contentes de rester dans le domicile conjugal avec une certaine stabilité pour les enfants et d'autres qui sont peut-être trop effrayées pour y rester. Il faut que tout soit prévu pour que les femmes soient en sécurité et qu'elles aient le moins d'impact, parce que là, la question qui est très bien soulevé à chaque fois, c'est que tout repose finalement, les conséquences de ces violences reposent sur les femmes. Les femmes sont victimes de violences, elles doivent quitter le domicile, elles doivent assurer leur protection et elles sont extrêmement seules et extrêmement isolées pour se faire. C'est la double peine et il y a toujours ce système d'inversion où en plus elles se sentent coupables de ce qui leur arrive. Et donc vraiment, la honte doit changer de camp. C'est un credo féministe qu'on tient depuis très longtemps et vraiment il faut mettre le projecteur sur les agresseurs, les hommes violents qui sont et qui soient rendus responsables de leurs actes et qu'ils aient des condamnations à la hauteur des actes qu'ils commettent.
Le bracelet électronique, il est testé depuis plusieurs années avec succès en Espagne. Pourquoi toujours pas en France, Luc Frémiot ? Ça fait partie de ce que vous avez toujours préconisé ?
Bah écoutez, moi, j'avais pas, à l'époque, quand j'ai lancé mes dispositifs, on ne parlait pas encore du bracelet électronique. Mais le bracelet électronique est intéressant s'il permet de géolocaliser l'auteur. Bon. Le problème, c'est toujours une histoire. Là, on est sur un problème de moyens. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas suffisamment. Je pense que la nouvelle génération des bracelets électroniques avec géolocalisation, eh bien, c'est encore un vœu pieux. C'est pas encore complètement.
C'est partiellement mis en place. Voilà. Encore une fois, il y a des disparités.
Voilà. Le principe du bracelet électronique, c'est-à-dire qu'il sonne dès que l'agresseur et l'ex-conjoint approchent d'une certaine distance la victime.
Voilà. Et ça, donc, l'idée, ça c'est que ce soit en pré-sententiel. C'est-à-dire que ça serait une mesure.
Il n'y aurait pas besoin.
C'est une mesure.
Et,
voilà.
Il n'y aurait pas besoin de décision de justice pour les remettre. Il pourrait être ou pas. Parce que ça aussi, là, c'est.
Oui, question pas nécessairement d'une condamnation pénale définitive. C'est ça qu'il faut bien distinguer. Il faut
avant
une
jugement.
Décision.
Il pourrait être remis dès le initial. Dépôt de plainte, par exemple.
Oui, bien sûr.
Enfin, oui, ce serait lié. Alors, ça fait partie des dispositifs. Encore une fois, et je souscris pleinement à ce qui a été dit. Il faut entendre la parole des femmes. Il y a des femmes pour qui c'est ça serait ça, effectivement c'est assez angoissant hein, d'avoir ce lien quelque part gardé avec leur ancien compagnon qui est devenu leur agresseur, mais en fait pour la plupart c'est une question de vie et de mort, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'être protégées en urgence, de pouvoir avoir une intervention immédiate, parce que ce qui se passe aujourd'hui c'est quand vous avez un homme, alors nous sommes déjà après la plainte,
déjà des systèmes où
dans l'hypothèse où la plainte a été prise,
l'homme peut déjà être assigné à ne pas s'approcher,
mais bien sûr, mais le problème du contrôle
déjà,
oui mais attendez, mais
il n'y a pas le bracelet électronique,
oui, et puis le problème du contrôle judiciaire c'est et ou alors de cette interdiction qui est fixée par le juge aux affaires familiales, c'est son application, c'est-à-dire que vous
qu'est-ce qui se passe justement quand l'homme ne respecte pas le contrôle
souvent
judiciaire,
c'est-à-dire
quand
souvent rien,
alors
il s'approche de son, souvent rien, alors que c'est un délit. Moi j'ai des clientes qui vont signaler des manquements au contrôle judiciaire de leur ex-conjoint qui a essayé de prendre contact avec elle, voire qui les attend devant chez elle, etc. Et c'est une plainte comme une autre, souvent, qui est mise parmi une liste de plaintes, et on n'a pas nécessairement une réaction concrète et pratique. C'est pour ça que ce genre de... Alors, c'est d'abord, il y a
un... Pourquoi de tels dysfonctionnements-là? C'est un manque de moyens? C'est une justice qui est débordée?
Ce n'est aussi pas considéré comme une priorité.
Voilà, c'est tout à fait ça. Là, ça concerne directement les procureurs de la République, là, ce que vous nous soulevez. C'est-à-dire, lorsqu'un délit est commis de cette nature-là, il leur appartient immédiatement d'engager des poursuites. C'est évident.
Le téléphone grave danger, selon Marlène Schiappa, c'est un téléphone d'urgence. Hein, l'État en a déployé 756, je reprends ses propos dans Le Parisien. Les deux tiers dorment dans des placards, toujours ses propos. Faute de décision de justice, c'est insupportable. C'est la raison pour laquelle Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a renvoyé une circulaire pour augmenter leur attribution.
Circulaire.
Comment vous réagissez ?
Circulaire.
Ben, alors, l'action politique passe par des circulaires aussi.
Oui, enfin, les circulaires, on sait ce qu'on en fait. Hein, moi, je sais personnellement. Les circulaires, c'est bien gentil, mais on les exploite ou on les exploite pas. Combien de fois... Vous savez ce qui manque là-dedans ? C'est très simple. C'est pas le circulaire qu'il faut. Il faut des injonctions avec des demandes précises de la direction des affaires criminelles à destination des procureurs de la République, avec un état des lieux tous les 3 mois. Savoir exactement ce qu'ils ont fait dans telle et telle situation. Est-ce qu'une plainte a été prise ? Est-ce qu'elle a été suivie ? Quelle est la réaction du parquet ? Y a-t-il eu une délocalisation de l'auteur ? A-t-il été confié à des psychiatres, à des psychologues ? Y a-t-il eu des bracelets électroniques ? C'est tout ça qu'il faut faire. Si on ne le demande pas, ça ne servira à rien. Les circulaires, vous savez, on en fait ce qu'on veut.
Je vais complètement dans le sens de Luc Frémiot. Ce qui est dramatique et ce qui montre quand même les problématiques de mise en place de cette politique publique de lutte contre les violences, c'est qu'on n'a pas d'indicateur de retour de toutes les annonces et de tous les plans qui sont annoncés. On n'a pas de bilan, on n'a pas d'évaluation des politiques publiques avec des bilans chiffrés, combien de refus de plaintes, combien de plaintes, combien ont été classées sans suite. On a vraiment très peu de chiffres sur la façon dont ça se passe et nécessairement, les procureurs ne sont pas redevables aujourd'hui des dysfonctionnements qui ont lieu aujourd'hui dans le système judiciaire.
Et j'ajouterais que nous avons besoin que ce soit budgété aussi, c'est très important, mais d'ailleurs c'est ce que nous attendons entre autres de ce Grenelle.
Vous écoutez 7 milliards de voisins à l'occasion du Grenelle des violences conjugales qui ouvre aujourd'hui en France. Évidemment, on revient donc sur ce phénomène planétaire. Vous avez la parole au 33 1 84 22 71 71. On écoute un message posté de Lomé au Togo de Sophie.
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Bonjour les voisins et les voisines, je m'appelle Sophie, j'ai été une femme battue dans mon foyer. J'ai fait 8 ans dans ce foyer, 8 ans et j'ai fait 2 enfants. Et ce monsieur avec qui je vivais, au début ce n'était pas comme ça, il était doux, très doux. Mais après la mort de sa maman, les choses ont dégénéré. Il déversait toute sa colère sur moi. Il me battait, même enceinte, il me battait. Il était devenu en quelque sorte mon maître et moi, je suis son esclave. C'est-à-dire, toi, tu n'as pas droit à l'erreur. Et je vous dis que je suis une ou deux fois partie à la gendarmerie avec des coups et blessures. Et je lui ai dit, je voudrais porter plainte contre mon mari. Il me dit, ah, madame, vous voulez porter plainte contre qui? J'ai dit contre mon mari. Il dit, non, rentre à la maison. Qu'est-ce que tu fais? Puis il te bat. Change-toi. À plusieurs reprises, ça s'est répété. Du coup, je me suis dit, mais contre qui je vais porter plainte et qui va m'écouter enfin? Le seul courage que j'ai trouvé, c'est de le fuir. Parce que une fois j'ai rentré dans ma famille, mes parents aussi m'ont dit, on ne quitte pas son foyer, va dans ton foyer. Moi, je l'ai fui un jour, très très loin avec mes enfants. Il a passé des mois dès qu'il m'a retrouvé encore avec les enfants. C'était catastrophique. Et il doit falloir que des gens du quartier se sont mobilisés. Et c'est eux qui m'ont sauvé de ça. Mais il y a bien sûr une loi dans mon pays, ici au Togo. On en parle à la télé, à la radio, même dans les journaux. Mais eux, ils se croient au-dessus de la loi, surtout s'ils ont des moyens. L'État ne peut rien faire. Il n'y a que des communautés associatives qui peuvent lutter contre ça. Courage à ces femmes battues-là d'avoir le courage de quitter leur foyer un jour. Sinon, prochainement, c'est leur mort. Bonne émission à vous. Au revoir.
Merci à Sophie d'avoir posté ce message. Les lois existent, ils se croient au-dessus des lois alors qu'on en parle dans les journaux, à la radio. Voilà la teneur de son message posté sur WhatsApp de Lomé au Togo. Nous sommes en ligne avec Awa Tunkara Sissé de l'Association des juristes sénégalaises en direct de Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'accord avec ce témoignage? Finalement, les lois existent, on en parle, et pourtant les femmes se heurtent à un sentiment d'impunité aussi de la part des hommes.
Oui, tout à fait d'accord. Parce qu'il y a toujours les pesanteurs socioculturels qui sont là. Et malgré les lois, c'est une question de culture et de coutume. Il faut beaucoup de champs, de temps pour aboutir à des changements.
Comment vous agissez, vous, en tant qu'association des femmes juristes, auprès des femmes qui viennent vous consulter, sachant qu'elles représentent une infime minorité des femmes qui sont victimes de violences conjugales, qui viennent vous demander des informations pour savoir quoi faire?
Oui, on les écoute avant tout. Et faire en sorte qu'elles ne se sentent pas du tout coupables. La violence, la personne qui est fautive, c'est l'autre, c'est l'auteur des violences. Donc c'est ça. Donc on les écoute, on les suit et on leur donne des informations assez fiables pour qu'elles prennent elles-mêmes des décisions. Et là, on les accompagne. S'il faut déposer une plainte, on est là. Pour l'assistance juridique et judiciaire, pour l'assistance psychologique, on est là, en partenariat avec des acteurs du domaine.
Est-ce que les dépôts de plaintes sont aussi difficiles que ce qu'ont évoqué nos invités qui sont toujours avec nous dans le studio en France?
Oui, c'est difficile.
Au Sénégal, c'est la même chose.
C'est difficile pour une femme de porter plainte contre son mari. Elle est mal vue. C'est la loi du silence, c'est les coutumes. La femme doit obéir.
Mais alors, mal vue par qui? Par le commissariat?
Le commissaire, c'est un Sénégalais. Par sa famille, c'est la société sénégalaise. Et partout, c'est des Sénégalais qu'elle va trouver. Au tribunal, au centre de santé, au poste de police, dans sa famille, c'est ça. Partout.
Les meurtres de femmes sont-ils comptabilisés au ministère de l'Intérieur au Sénégal?
Je ne l'ai pas lu dans le rapport. Ils l'ont comptabilisé comme des meurtres, je ne sais pas, qui viennent des violences conjugales, mais les meurtres, ça existe. On en a vu beaucoup, oui.
Quelles seraient, selon vous, les mesures à prendre chez vous, à Ouassissé?
Ce qu'on fait, c'est que c'est vrai qu'il y a la loi de 99, 29 janvier, qui est là pour réprimer plus sévèrement lorsque l'auteur des coups et blessures est un conjoint. C'est là, mais la loi, il peut utiliser pourquoi? Question, comme j'ai dit, de culture et de présentation sociale. Donc, il faut beaucoup de sensibilisation. Sensibilisation pour qu'elles connaissent la loi, mette fin à cette culture de silence, de non-dénonciation. Il faut qu'on dénonce et il faut aussi beaucoup de prévention. Et lorsque malgré tout cela, il y a encore la violence qui est là, il faut une prise en charge et répondre à tous les besoins des femmes.
Merci.
Ce ne sont pas que seulement judiciaires.
Et vous faites bien d'avoir cité aussi les médecins lorsqu'ils ont la possibilité d'examiner une femme battue, pour certains qui sont dans une culture du silence. C'est ce que vous nous disiez. Merci à Awa Tunkara Cissé de l'Association des femmes juristes sénégalaises. En France aujourd'hui, est-ce qu'il y a un débat sur, alors essentiellement le débat sur les plaintes et sur la protection des femmes, puisqu'on sait que en gros il y a une plainte sur, c'est que les chiffres, hein, une femme sur cinq va parvenir à
14%,
c'est ça,
vont aller porter plainte.
Ouais.
Non, il y a un chiffre noir en plus, c'est-à-dire on ne peut pas comptabiliser vraiment toutes celles qui ne portent pas plainte.
Oui, c'est une estimation.
C'est une estimation.
Marlène Schiappa demande un durcissement des peines judiciaires pour... vous levez les yeux au ciel, Luc Frémiot, mais...
Oui, je lève les yeux au ciel parce qu'en fait, on est toujours dans le même système qui consiste à abonder la chaîne alimentaire des tribunaux correctionnels. C'est-à-dire qu'on attrape les gens. Quand enfin une plainte est traitée, on le voit devant le tribunal. Alors, c'est ou une peine avec sursis ou une peine de prison. Bon, on n'en sortira pas parce que quand ils ressortent, ben, ils font la même chose. Si on ne prend pas le temps de soigner ces auteurs pour sauver les victimes, on reviendra toujours à cette espèce de cercle qui n'est pas vertueux. Il faut absolument travailler sur la prévention de ces auteurs. Et ça fonctionne. Vous avez les travaux du docteur Coutenceau, que tout le monde connaît. Il y a le docteur Louvrier dans le Nord avec lequel j'ai travaillé. L'idée, c'est quoi? C'est pas d'éradiquer la violence. On est tous dépositaires de parcelles de violence qu'on digère et qu'on sait maîtriser. L'idée, c'est d'expliquer à ces hommes, eh bien, dans quelles conditions ils passent à l'acte. Ça fonctionne au Québec depuis des années. Moi, le docteur Louvrier...
Donc des centres de parole pour des hommes?
C'est pas des centres de parole, c'est des centres de responsabilisation, vous comprenez? C'est-à-dire, on essaie de leur faire comprendre à quel moment ils deviennent dangereux, de manière à ce qu'ils aient les clignotants pour quitter les lieux. Et ça marche. Vous avez la maison Rosati à Arras. Il y a eu un documentaire très intéressant sur Infrarouge il y a quelques temps, où on voit justement comment ces hommes sont traités. Et ça fonctionne. Et j'entends pas du tout d'éléments là-dessus. Et c'est ça que je reproche à Mme Belloubet, à Mme Schiappa. C'est
la
ça,
justice.
Pas, ça.
Les actions, non, justement, qu'est-ce que vous en pensez,
je mettrais peut-être,
Céline Pic.
Juste une petite précision, quand j'entends soigner les hommes.
Oui, entre guillemets.
Soigner, entre guillemets, je sais très bien dans quel sens vous le dites, mais pour les auditeurs et les auditrices de RFI, les violences conjugales ou les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une maladie masculine.
C'est vrai.
On n'a jamais trouvé de maladie des violences. Vraiment, il faut voir que c'est l'envie.
Donc pour
c'est
vous, c'est un délit
sexiste.
Avant tout, alors? Vous préfériez qu'on reste sur une idée d'hommes coupables plutôt
pas,
que d'hommes...
C'est pathologiser en disant qu'ils ont des problèmes psychiatriques. Ils sont la résultante effectivement d'un environnement, d'une société profondément sexiste. Et ils sont imprégnés d'un certain nombre d'idées reçues, de stéréotypes sur « je possède ma femme est à moi, si elle me trompe, j'ai le droit de la frapper, j'ai le droit d'accéder à son corps, c'est-à-dire lui imposer des rapports sexuels, ce qu'on appelait avant le devoir conjugal, c'est du viol conjugal. Ça aussi, c'est une forme de violence entre les femmes et les hommes au sein du foyer. Que le foyer est le lieu des violences sexistes et sexuelles et qu'il faut vraiment avoir un discours féministe sur cette question des violences et voir que ce qui légitime le passage à la violence de ces hommes, c'est vraiment le fait qu'ils sont persuadés d'avoir des droits sur leur conjointe. Et ça, c'est l'idéologie sexiste. Et pour ça, la prévention auprès des enfants en particulier est essentielle. Moi, nous, on se désespère, par exemple, que dans la loi est prévu 3 séances par an et par niveau de classe d'éducation à la sexualité, dans laquelle on pourrait faire de la prévention des violences. Expliquer ce que c'est que l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Donc, vraiment, il y a aussi une prévention à mettre en place bien avant, chez les jeunes enfants et chez les jeunes générations, sur une autre façon d'envisager ce que c'est que le couple, qui soit... enfin, débarrassé de tout sexisme et de toute culture sexiste.
On va donner la parole à une, non pas une auditrice, mais une humoriste, Raphaël Lévy-Lével, qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, Raphaël Lévy-Lével. Vous avez écrit sur les, en tant qu'humoriste, artiste, vous avez écrit sur les violences conjugales, un sketch, on peut dire. C'est une situation que vous avez vécue personnellement. Pourquoi en parler aujourd'hui?
Alors tout à fait, donc moi j'ai écrit des sketchs qui sont plutôt humoristiques d'habitude. Et il y a 4 ans, en fait, je me suis retrouvée dans une situation confrontée à de la violence, alors pas forcément de la violence vraiment physique, mais plutôt de la violence verbale, psychologique, qui a failli vraiment dégénérer. Et en sortant un petit peu de cette situation, je me suis renseignée autour de moi, parce que moi je m'en suis sortie grâce notamment à mon entourage, mais je me suis renseignée autour de moi et j'ai vu qu'il y avait énormément de femmes qui étaient victimes de violences comme ça dans leur couple, qui n'en parlaient pas forcément, et qui étaient vraiment des femmes qu'on va côtoyer tous les jours, enfin, des femmes qui sont qui ont un bon boulot, qui ont plein d'amis, qui sont hyper à l'aise dans leur corps, dans leur vie, et qui pondent comme ça sur chacun. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être un moment de faiblesse ou quelque chose comme ça, mais et qui vont se retrouver complètement enlisées dans une situation qui va prendre des proportions qu'elles n'ont pas forcément anticipées.
À l'époque, est-ce que vous avez déposé une plainte? Est-ce que vous aviez de quoi d'ailleurs déposer une plainte?
J'ai déposé des mains courantes. Ouais. Mais qui n'ont pas du tout été prises en compte. Hein. Tant que j'arrivais pas. Alors moi, comme je vous dis, c'était de la violence qui était verbale, qui était psychologique. Tant que j'arrivais pas, en fait, avec un bras cassé chez la police, il y avait, enfin, il y avait aucune mesure qui était prise.
Vous avez été enfermée à double tour à votre domicile, hein, par votre conjoint de cette époque. Quelle trace a laissé cette agression dans votre vie, cette époque?
Alors, je vous avoue que moi, ça m'a vraiment donné envie de m'investir d'une manière ou d'une autre pour aider des femmes qui vont être moins aidées par leur entourage. Je me suis rendu compte que ça peut tomber sur n'importe qui et que juste on a honte, on n'ose pas en parler. Donc moi, j'ai décidé de prendre un petit peu le positif de tout ça et d'aider d'autres personnes.
Mais c'est intéressant que vous souleviez le fait que les violences conjugales touchent tous les milieux sociaux et que le mythe de la femme fragile, très fragile psychologiquement, très fragile socialement, il n'est pas forcément, alors je ne sais pas, hein, je parle sous le contrôle des associations de femmes, mais il n'est pas si vrai que cela, Sophie Soubiran?
Non, bien sûr, les violences conjugales transcendent absolument tous les milieux sociaux et ce sont des situations qui peuvent arriver absolument tout le temps. Je crois qu'il est important de mettre le prisme sur l'auteur. Dans cette façon de présenter les choses qui est très intéressante parce qu'elle permet de voir que ça peut toucher tout le monde.
On parle trop des femmes.
On se pose la question de ce qu'a fait la femme pour se retrouver avec cet homme-là. Et je crois qu'il ne faut pas présenter. C'est intéressant parce que ça nous montre que ça peut arriver à tout le monde.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'un homme a fait pour se retrouver à devenir violent.
Mais avant de se poser la question de la cause, d'abord, je voudrais qu'on pose et qu'on le fasse de manière effective et pas uniquement dans les mots, le fait que c'est interdit, c'est illégal, c'est un délit, c'est un crime, et la norme en soi, elle est bonne, c'est bien qu'elle existe, mais encore une fois, si elle n'est pas sanctionnée, ça n'a pas d'intérêt. Et je voudrais revenir très brièvement sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les peines. La question, à mon avis, il ne faut pas opposer. C'est pas de s'occuper des hommes pour psychologiser ce qui se passe et les excuser et dire que ce sont les victimes. C'est pas du tout ça. Mais c'est simplement qu'il faut revenir au sens de la peine pénale. Qu'est-ce qu'une peine ? L'objectif d'une peine, c'est pas d'enfermer les gens de manière sèche pendant 6 mois, 1 an, pendant lesquels il ne se passe rien en raison de la surpopulation carcérale et donc il ne peut pas y avoir de suivi. Une peine, un stage de responsabilisation, comme on a dit, une peine qui oblige à faire un certain nombre de choses, c'est une peine pénale. Et pourquoi ? C'est pas pour être agréable à l'auteur, c'est parce que l'objectif de la peine, c'est que la personne ne recommence pas. C'est
donc
que
une
ça
peine,
s'arrête.
Elle est faite pour être expliquée, être comprise par
elle est
l'auteur
faite pour
du
être
délit.
Comprise, pour être effective, pour être suffisamment sévère pour avoir un sens. Et là, effectivement, il y a la question du deux poids, deux mesures qui pose un problème. Aujourd'hui, si vous volez un portable dans la rue, vous passez en comparution immédiate, vous pouvez, si c'est la troisième ou quatrième fois, vous allez vous prendre une peine ferme. Si votre femme a 3 jours d'ITT parce que vous la frappez et que vous avez un peu d'argent, vous allez prendre une peine d'amende.
Ça semble fou, là, ce que vous venez de résumer. Cette réalité-là, aujourd'hui, c'est
tout l'intérêt aujourd'hui de saisir la possibilité du Grenelle pour dire que ça ne se passe pas bien. Il faut une politique publique, il faut une politique pénale. Et oui, et je répète qu'il faut du budget, mais vous avez raison, ça dépasse cette question-là.
Luc Frémiot, votre conception de la tolérance zéro que vous appliquiez lorsque vous étiez procureur de Douai, est-ce que il y a un passage à l'échelle possible, à une échelle nationale, et comment, cette conception?
Cette conception-là a été reprise dans un guide des bonnes conduites édité par la chancellerie. Tout le dispositif que j'ai mis sur pied, mais le problème,
on
c'est
peut
qu'il
rappeler
est pas...
les éléments essentiels.
Tolérance zéro,
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'on prend des plaintes pour toutes les affaires et il y a une réponse pénale pour toutes les affaires.
Deuxième chose. Ça peut être un simple rappel à la loi?
Ça peut l'être. Mais tout des... vous savez, ce qu'il faut, c'est intervenir dès les premiers coups. Ça, c'est très important. Ne pas attendre un effet de seuil. Parce que plus vous attendez, effectivement, que la personne soit enracinée dans un concept de violence, plus c'est difficile de le traiter. Si on intervient dès le début, c'est beaucoup plus simple. Et donc, il faut des plaintes, il faut une éviction du domicile, et ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pour l'homme, hein, violent, selon vous.
Mais bien sûr, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à travailler. Et c'est fait avant le jugement. C'est ce qu'on appelle en présententiel. Ensuite, on passe devant un tribunal. Il peut y avoir une peine avec sursis mise à l'épreuve. Et le sursis mise à l'épreuve consiste à poursuivre justement ces stages de responsabilisation.
Céline Pic.
Oui, et puis je pourrais peut-être citer aussi le cas de l'Espagne qu'on cite très souvent. Il y a une question aussi des délais de traitement, en fait. Hein. Quand on est comme ça dans une situation d'urgence vitale, on est aujourd'hui en France confronté à une justice lente qui n'est pas nécessairement adaptée au caractère d'urgence, en particulier quand il y a des enfants qui sont en jeu. Et en Espagne, ils ont mis en place des tribunaux spécialisés, donc ça permet d'éviter les incohérences entre, en particulier, des attributions d'ordonnances de protection d'un côté et puis de l'autre côté il peut y avoir une garde partagée concomitante décidée, ce qui est complètement absurde. Et ils ont souvent, le procès intervient dans les 15 jours qui suivent les violences, et même les conjoints sont entendus par la justice dans les 72 heures. Donc vraiment, on n'est pas du tout sur les mêmes délais de traitement. Et ça permet de réduire aussi l'impunité, le sentiment d'impunité, parce que ces défaillances de la justice, c'est la double peine pour les femmes, je me permets d'insister dessus, parce que non seulement elles ont eu l'extraordinaire courage de franchir la porte d'un commissariat, et en l'absence de réponse appropriée et rapide et effective, ça donne un sentiment d'impunité de l'agresseur qui l'avait déjà, qui est renforcé. Et donc, on arrive à une situation contre-productive où, finalement, le message qui est envoyé à l'agresseur, c'est qu'il peut continuer à frapper, puisque, de toute façon, il n'y a pas de réaction appropriée et dissuasive de la police comme de la justice.
Le terme féminicide ne figure pas dans le code pénal, mais en tout cas, on l'entend de plus en plus dans les médias. Il est compris par les citoyens aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que la société est en train de changer aujourd'hui ou pas? Sophie Alors, Soubiran.
Je l'espère. Oui, effectivement, il y a un frémissement, plus qu'un frémissement. On entend beaucoup plus parler de ces problématiques, peut-être qu'il y a quelques années. On en parle aussi différemment, mais simplement
en
là.
En tout cas, plus au chapitre des faits divers dans la presse.
Absolument. C'est sûr. D'ailleurs, sur le traitement, ce qui est important, mais je crois que on n'y est pas encore arrivé, hein, en réalité. C'est que il faut arriver à sortir ces questions de la question du fait divers, parce que la question du fait divers, ça veut dire que c'est un problème privé. C'est-à-dire que c'est un problème intime, que c'est un problème familial. Et donc, de là découlent tous les dysfonctionnements, enfin entre autres, tous les dysfonctionnements dont nous avons parlé, à savoir, puisque c'est un problème privé, ça doit rester de l'ordre du privé et la société n'a pas à s'en mêler. Et donc, bien entendu que le traitement change. Mais pour le moment, on a aussi besoin et surtout d'une volonté politique. Il ne s'agit pas simplement de prise de conscience pour les individus. Il faut que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités par rapport à ça, et c'est ce qu'on attend de ce Grenelle.
Je suis assez contente parce que nous, notre campagne Reconnaissons le féminicide, elle datait de 2014 et tout le monde était à l'époque assez sceptique, voire ironique sur le terme féminicide. On a avancé en 5 ans plus tard.
Rappelons que la définition, c'est un meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme.
Donc un meurtre sexiste. C'est le sexisme qui est à la base de la motivation du criminel. Et là, on a avancé et on peut remercier un certain nombre de journalistes sensibilisés à cette question qui aujourd'hui utilisent le terme féminicide.
Merci à vous tous. Merci à vous, Luc Frémiot, ex-procureur de Douai. Merci à vous, Sophie Soubiran, Fondation des Femmes, Céline Pic, Oser le Féminisme. Merci à Awa Cissé de l'Association des Femmes Juristes Sénégalaises et à Raphaël Lévy-Lével, humoriste, qui ont participé à cette émission. On se retrouve demain en direct, même heure, même endroit.